Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une. Cette mise en garde de la synergie pour la lutte anti-mine SILAM aux populations du Nord Kivu. Les engins explosifs ont déjà tué une vingtaine de personnes dans les zones de combat. Attention, les engins de guerre ressemblent aux objets utilisés quotidiennement. Tenez par exemple, un obus peut ressembler à un poisson et une mine antipersonnelle à une petite lampe, indique la SILAM. Les notables et élites du Kwilu dénoncent la dégradation des conditions sociales, économiques et sécuritaires de la population locale, ainsi que l'absence d'un leadership politico-administratif responsable dans cette province. Ils l'ont dit dans une déclaration vendredi à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Blaise Irengue, photographe reporter à l'Agence congolaise de presse. Il a remporté le prix de la meilleure photo 2023, décerné par la Fédération Atlantique des agences de presse africaines au Maroc. Il s'est dit persuadé que la photo issue d'un reportage terrain peut être un vecteur de paix notamment. Mais d'abord cette nouvelle, 10 morts et plusieurs blessés, bilan encore provisoire d'un grave accident de circulation survenu hier soir en pleine ville de Matadi au Congo central sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la place appelée Coca-Cola. Un camion remorque transportant des dizaines de casiers de boissons d'une société brassicole en provenance de Kinshasa pour la ville de Boma s'est renversé sur la bande contraire de la route. Le maire de Matadi et le commandant de la police ville de Matadi affirment que plusieurs corps sans vie gisait encore sous le véhicule hier soir, parmi eux une femme enceinte. Accident aussi à Goma. Un mort et 21 personnes blessées grièvement. Bilan d'un grave accident de route enregistré tard dans la nuit de vendredi à hier samedi. C'était pendant que la population célébrait la victoire des léopards à la CAN. L'accident est survenu sur la route Katindo entre le rond-point appelé Instigo et le bureau du commissariat provincial de la police. Selon les sources hospitalières, une voiture taxi en provenance du centre-ville qui roulait à vive allure a ramassé les passants qui festoyaient sur la chaussée. La plupart des victimes se retrouvent avec des graves fractures et autres blessures qui nécessitent des soins appropriés, notamment des interventions chirurgicales. Toutes ces personnes sont prises en charge à l'hôpital provincial de Goma. Parmi les blessés, 3 enfants d'une même famille habitant au camp Katindo. Cet incident a provoqué la colère de la population la même nuit. Elle a tenté de se rendre justice et la police a fait usage des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour rétablir l'ordre, renseigne des témoins. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, la synergie pour la lutte anti-mine, SILAM, regrette avoir enregistré une vingtaine de morts causées par l'explosion des engins explosifs dans les zones où se déroulent les combats. C'est notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Pour limiter les dégâts humains causés par ces engins de guerre, la SILAM appelle la population vivant dans et autour de ces zones de combat de faire attention à la présence de ces explosifs. Elle l'invite à alerter les autorités en cas de la découverte d'un engin. Marion Gavo, coordonnateur national de la SILAM, explique au micro de Denise Lukeso.
À ça que nous venons de perdre 2 fillettes de 9 ans et de 11 ans dans l'explosion. À Mouesso, 19 personnes, 27 blessées. En Tamugenga, une fille qui est blessée. La SILAM demande à toute la population qui se trouve aux alentours des zones de combat, comme dans le Rutshuru, le Masisi, le Nyiragongo et la ville de Goma, de faire attention, de ne pas confondre les engins de guerre avec les objets que nous utilisons tous les jours. Un mortier peut ressembler à un pilon, une grenade peut ressembler à un ananas, un obus peut ressembler à un poisson, une mine antipersonnelle peut ressembler à une petite lampe. Donc, nous demandons aujourd'hui aux gens qui sont dans ces zones de combat de ne pas toucher les engins qu'ils ne connaissent pas, mais d'informer l'autorité en place, la police, pour nous informer et que nous puissions venir traiter la munition. Les zones actuellement dangereuses sont les Kiroche, Kimoka, Nyiragongo, tous les Kibaya, les Bweremana, toute la zone de Kamuronza-Sake où se passent les combats.
Nord-Kivu toujours, signalons que l'ONG internationale Médecins sans frontières, MSF, basée à Mouesso, dans le territoire de Masisi, relocalise temporairement une partie de son personnel médical vers Kichanga. C'est à 12 kilomètres de Mouesso. MSF évoque des raisons sécuritaires du moment avec des combats dans cette région. D'après cette ONG, cette décision est prise après l'explosion vendredi d'une bombe qui est tombée sans faire des victimes à 3 mètres de sa base de Mouesso. MSF rassure toutefois qu'une équipe restreinte de son staff, en collaboration avec le bureau central de la zone de santé, continue d'apporter leur soutien à la population qui fait face à une situation humanitaire et sanitaire très difficile à l'hôpital général de Mouesso et dans les centres de santé. On écoute Madame Tchalar Tairoglou, coordonnatrice des projets MSF à Mouesso. Elle est jointe par Denise Loukesso.
MSF continue toujours d'appuyer les activités à l'hôpital Mouesso. Et les centres de santé appuyés, ça veut dire Kashuga, Kalembe, Katiro, Bibé, Empati et les activités urgences à Mokoto, ils sont tous en cours. Et donc nous continuons la collaboration étroite avec nos collègues du ministère de la Santé, BCZ, pour la continuation de ces activités-là. Néanmoins, on a délocalisé une grande partie de notre staff à Kichanga, mais nous avons aussi une présence toujours à Mouesso. La raison de cette décision, c'est que hier, il y a une bombe qui a explosé 2 mètres de notre base. Et dans ces conditions-là où la loi internationale humanitaire n'est pas respectée et les bases humanitaires ou les espaces civils n'ont pas été respectés, nous n'avons pas jugé opportun de rester pour l'instant leur liaison à Kichanga pour observer la situation et pour voir quand est-ce qu'on peut retourner en Mouesso. Et pendant ce temps-là, les activités continuent.
Notez que MSF appuie plusieurs structures de santé dans le Masisi depuis 2008. Insécurité dans le territoire de Niragongo. Un mort et 4 blessés, dont un policier. C'était la nuit de vendredi à hier samedi dans le village Kierou. D'après la société civile de Niragongo, des bandits armés ont cambriolé plusieurs maisons dans ce village avant de faire des victimes. Alertée, une patrouille des FARDC est intervenue. Après des échanges des tirs avec ces bandits, l'armée a neutralisé 2 d'entre eux. Les forces de sécurité ont récupéré plusieurs effets militaires et une partie des biens des civils volés. La société civile salue la bravoure de l'armée et demande au gouverneur de province de mettre en application les recommandations formulées lors du conseil local élargi de sécurité tenu à Bukumu autour de la problématique sécuritaire. Insécurité aussi dans la ville de Matadi. Le directeur de département des ports maritimes de la Société congolaise de ports et SCTP ex-ONATRA dénonce l'attaque de son domicile par les inciviques armés des machettes dans la nuit de mercredi à jeudi de cette semaine. Dans une déclaration faite à la presse, Dieudonné Bogwala a indiqué que cette attaque coïncidant avec son retour à Matadi pour la reprise du travail après quelques mois de congé n'est pas un hasard. Selon lui, c'est un acte prémédité pour attenter à son intégrité physique. À cet effet, il demande aux autorités compétentes de renforcer la sécurité dans la ville et invite le responsable des services spéciaux de la police de se servir d'un des malfrats arrêtés en flagrance pour mettre la main sur le vrai instigateur de cette attaque. Dieudonné Bogwala, directeur du département des ports maritimes de l'ex-ONATRA, dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Pendant que je dormais, cette nuit, j'étais victime d'une attaque par des bandits armés de machettes qui ont tenté de forcer les deux entrées de ma résidence. Heureusement pour moi, après presque 20 minutes d'attaque, une intervention de la police, c'est comme ça qu'ils se sont dispersés. À la fin, ma garde est rapprochée a pu quand même mettre la main sur un des assaillants qui était mis à la disposition de la police et conduit auprès de la police criminelle de ma tête. Quand je vois la malheureuse coïncidence avec mon arrivée seulement hier et que les faits puissent se passer la même nuit, j'ai la nette conviction qu'il y a eu une préméditation à l'atteinte de mon intégrité physique. Alors je demande que les autorités puissent prendre les dispositions pour renforcer la sécurité dans la ville et je souhaite que la police criminelle puisse aller jusqu'au bout de cette enquête et identifier les vrais auteurs de cet acte. Il me semble pas être fortuit.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, les notables et élites de la province du Kwilu dénoncent et condamnent la dégradation des conditions sociales, économiques et sécuritaires dans lesquelles vit la population locale et aussi l'absence d'un leadership politico-administratif responsable dans cette province. Dans une déclaration lue à l'issue d'une rencontre de 3 jours clôturée vendredi à Kinshasa, ces notables du Kwilu ont formulé quelques recommandations au gouvernement, aux investisseurs et à toutes les couches de la population. Un extrait de leur déclaration lu ici par le bâtonnier Matadi Nenga, propos recueillis par Irène Boma.
Considérant la détérioration vertigineuse des conditions sociales des populations de la province du Kwilu, marquée par la dégradation fort avancée du tissu socio-économique, le chômage et la pauvreté généralisée, l'insécurité, l'absence d'un leadership politico-administratif responsable, faisons la déclaration suivante. Constituons un cadre permanent de concertation pour veiller sur la bonne gestion de notre province. Suscitons l'émergence d'un management participatif et actif de la province par une meilleure gouvernance. Demandons à chacun, à la notabilité, à l'élite intellectuelle et à tout acteur socio-économique de s'impliquer par son savoir-faire pour le développement de la province. Encourageons les investisseurs internationaux, nationaux et locaux à s'impliquer au développement de notre province. Encourageons le gouvernement de la République à poursuivre sans relâche les efforts déjà consentis dans le rétablissement de la paix à travers la lutte contre l'insécurité créée par le phénomène Mobondo.
Au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero appelle la population de Mangourejipa à ne pas céder aux discours de haine et d'incitation à la violence de certains candidats malheureux aux dernières élections législatives. Mangourejipa, localité située à 100 km à l'ouest de Butembo, selon le colonel Alain Kiwewa, des messages de haine propagés par certains hommes politiques ont été à la base vendredi des actes de vandalisme dans cette localité. Il leur demande de s'en remettre à la justice pour faire entendre leurs revendications plutôt que d'intoxiquer la population ou d'utiliser la rue. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, joint par Martial Papi Mukeba.
Pendant la manifestation, la population avait détruit certains édifices comme le marché, une paillote de l'ICSN qui a été pratiquement cassée également. Et puis, ils ont scellé le bureau de l'actuel chef de secteur. Il n'y a que des propos de haine tribale tenus par des politiciens malheureux aux dernières élections qui veulent utiliser la haine comme arme et se faire une santé politique. Ce que je demande à la population, vraiment de ne pas céder. Nous sommes tous appelés à vivre ensemble parce que nous sommes tous des Congolais. Concernant maintenant les résultats des élections législatives, si vous voulez réclamer ou si vous trouvez que vous êtes lésé et que vous trouvez qu'il y a eu injustice quelque part, il y a la Cour constitutionnelle et puis il y a aussi la Cour d'appel. Ce sont ces deux institutions-là qui peuvent trouver une solution idoine à votre problème.
Dans l'actualité aussi, l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ne recrute pas. Cette mise au point est du président du conseil d'administration de cette structure. C'est à la suite des allégations de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, qui a, dans une lettre adressée au chef de l'État le 29 janvier dernier, alerté sur, je cite, « la résurgence du recrutement irrégulier à l'ARMP ». Le PCA de l'autorité de régulation des marchés publics rassure que depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante de l'ARMP en octobre dernier, un seul contrat de travail a été signé, celui de l'orphelin d'un agent décédé. Écoutez Armand Tchamala, PCA de l'ARMP, au micro de Jocelyne Moussaoponde.
Je vous dis solennellement, depuis ce recrutement décrié en 2020, l'ARMP n'a pas recruté. Mais dans tous les cas, depuis que ce nouveau conseil d'administration est en place, le 18 octobre 2023, la directrice générale a signé un seul contrat d'emploi. Et c'est le contrat du fils d'un agent décédé. Selon la convention collective de l'ARMP, on peut engager l'épouse légitime ou le fils d'un agent décédé à condition qu'il remplisse certaines conditions. À l'ARMP, on n'est pas en train de recruter en cachette. On se prépare pour nous déployer dans les provinces et ça va nécessiter du personnel que nous allons recruter dans le respect des législations et de la réglementation. Le DG et le DGA de l'ARMP sont recrutés sur concours organisé par le conseil. Et quand on a fait ce concours-là, on a publié les avis qui sont restés dans les médias, je crois, pendant 15 jours. On a fait ce travail-là, les autorités vont décider.
Au Kassai oriental, nous apprenons que les porcs en divagation détruisent les cultures des habitants dans le foyer agricole de Kanana, groupement de Bakwampuka, vers Tilundé, dans le secteur de Mukumbi, territoire de Lupatapata. Plusieurs habitants du foyer agricole de Kanana affirment que ces porcs peuvent créer la famine dans le groupement si rien n'est fait pour sauver les cultures. Le chef de groupement prévoit d'envoyer dans un bref délai quelques agents pour s'enquérir de la situation et sensibiliser les habitants à construire des porcs chéris pour leurs bêtes, nous y reviendrons. En sport, l'adversaire de la RDC en demi-finale de la CAN 2023 sera la Côte d'Ivoire. Le pays des éléphants a validé son billet hier samedi 3 février en dominant le Mali sur le score des 2-1, ce à l'issue d'une prolongation au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro. La demi-finale entre la RDC et la Côte d'Ivoire se jouera le mercredi 7 février au stade Ebimpe d'Abidjan. Il s'agit d'une retrouvaille après la CAN 2015 où les deux nations s'étaient retrouvées à la même étape de la compétition en Guinée équatoriale. L'autre demi-finale opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud, tombeur du Cap-Vert le même samedi à l'issue de la séance des tirs au but.
Actualité internationale.
Les Sénégalais ne seront plus convoqués aux urnes le 25 février comme prévu. Le scrutin présidentiel a été reporté sine die par un décret signé hier samedi par le président Macky Sall. Il abroge celui du 26 novembre 2023, fixant l'élection présidentielle au 25 février 2024. Au centre de ce report, la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur deux juges de la Cour constitutionnelle accusés de corruption par le parti de Karim Ouad, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée pour n'avoir pas renoncé à sa nationalité française à temps.
L'invité.
Il s'agit de Blaise Irengué. Il est photographe reporter à l'ACP, Agence congolaise de presse. Il a remporté le prix de la meilleure photo 2023 décerné par la Fédération Atlantique des agences de presse africaines au Maroc. Originaire de l'est du pays, Blaise Irengué s'est dit persuadé que la photo issue d'un reportage terrain peut être un vecteur de paix, mais aussi une arme puissante de lutte contre les fake news. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi.
Blaise Irengué, bonjour.
Bonjour Madame Cynthia.
Alors vous êtes lauréat du prix de la meilleure photo 2023, prix décerné par FAPA. Aujourd'hui, quelle est la symbolique de ce prix à vos yeux?
Merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez faite pour venir à la Radio Capi. Le symbole que ce prix-là représente pour moi, c'est un symbole d'encouragement, c'est un symbole d'engagement professionnel sur terrain, des volontaires. Ils en ont même parlé de ça, façon dont je m'engage sur terrain avec vraiment de moyens limités, avec toutes les difficultés que nous rencontrons sur terrain. Et c'est un prix qui symbolise vraiment un engagement et un encouragement pour moi de la part des femmes.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la photo qui a justement été plébiscitée?
C'était la photo qui parle premièrement d'abord des inondations des Calais et dans mon sujet ciblé les enfants des Calais qui sont restés orphelins. Et au cours de mes reportages pendant ces moments des inondations à Calais, j'avais beaucoup plus ciblé les enfants qui ramassaient de bois de chauffage et d'autres qui ramassaient de bois de chauffage pour revendre et même pour usage personnel.
Et donc tous les pays membres de la FAPA ont participé à cette compétition. Mais qu'est-ce qui vous a rendu singulier? Quel est l'élément distinctif de cette photo par rapport à tous les autres qui étaient dans cette compétition?
La singularité de cette photo, c'était d'abord le regard de tristesse qui lançait le visage de ces enfants-là et les bois que ces enfants-là, ils étaient toutes des filles, les bois qu'elles portaient et l'environnement derrière les enfants qui représentait presque vraiment un environnement invivable.
Un environnement fantôme.
C'était
tout s'est écroulé.
Oui, tout s'est écroulé. Derrière, ça montrait des maisons vraiment qui ne pouvaient plus être habitées. Et c'était cet environnement-là qui avait beaucoup plus suscité l'enthousiasme de la part du jury pour primer et sélectionner ça comme meilleure photo de l'année 2023.
Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est un peu aussi temps peut-être de changer de narratif quant à la manière dont la RDC est racontée à l'international? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi être un peu équilibré, vendre aussi peut-être la beauté du lac Kivu ou la beauté d'une autre région de la RDC?
Je suis photographe reporter et je suis basé à l'est du pays. Oui, nous reconnaissons d'abord cette partie que nous avons l'habitude de montrer, cette partie de souffrance, cette partie de misère que vit la population du Nord Kivu, en fait, Kivu en général. Mais il nous arrive aussi des fois de promouvoir la beauté, le visage positif de la partie Est. Dans sur ma page X Twitter, où je fais aussi cette promotion là, de montrer aussi, à part les catastrophes naturelles, à part les déplacés, les guerres, les déplacés des guerres tous les jours qui arrivent par-ci par-là en Nord Kivu, il y a aussi cette partie positive que j'aime beaucoup plus aussi montrer. Parce que c'est vraiment un paradis. L'Est du pays, c'est vraiment un paradis.
Cette photo-là de Kalehe peut aujourd'hui être considérée comme un outil de plaidoyer pour essayer de trouver des pistes de solutions par rapport à toutes les catastrophes naturelles qui ont déjà beaucoup endeuillé cette partie du pays.
Oui, exactement. Ça peut constituer vraiment une arme pour nos dirigeants, pour nos décideurs. Déjà, avec cette photo-là, et ça avait même suscité vraiment de l'enthousiasme auprès de la Fondation Vodacom, qui était venue même en aide auprès de la population des Calais au mois de novembre dernier. Ils ont commencé même la construction des abris avec un don de 100 000 $. Et c'était grâce aux premières images que j'avais présentées également à la Fondation Vodacom parlant des Calais, qui avaient vraiment suscité de la compassion auprès de leurs partenaires, et ils ont aidé cette population à valeur de 100 000 $. Et on peut toutefois encore utiliser cette image pour montrer à nos dirigeants que jusqu'à présent, la population des Calais est encore vulnérables, et ils ont vraiment besoin des abris vraiment dignes comme il y a cela 3 ans passés.
La photo peut être utilisée comme un vecteur de paix, vous êtes d'accord?
Exactement, et également comme élément pour contrarier des fake news. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la presse est inondée par des fake news. Et grâce à nous, reporters, qui reportons des choses vraies telles que ça se passe sur terrain.
Dans des terrains compliqués, oui, difficiles.
Oui, difficiles. Et la photo, vraiment, peuvent jouer un grand rôle pour démontrer, surtout la photo créditée, peuvent démontrer la réalité, la vraie version d'une information.
Blaise Irengue, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Cynthia Bachizi.
Notre invité est reporter, photographe à l'Agence congolaise de presse. Il répondait aux questions de Cynthia Bachizi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place à l'actualité sportive avec Enoch Matondo Mvuizolo.